Nous sommes la moyenne des personnes que nous fréquentons. Avec Génération Do It Yourself, je vous propose de rencontrer ensemble des entrepreneurs, sportifs ou artistes qui vont littéralement faire exploser notre moyenne.
C'est comme un gamin dans un candy store, comme disent les Américains.
Tu as quel âge?
54.
Non, pardon, à l'époque.
C'était en 80...
30 ans, 30 il y a 30 ans, tu avais 25 ans. Quoi.
Non, ouais. 30 ans. Ouais. Je me suis senti à l'apogée de ce que je pouvais expérimenter. C'était, c'est comme si c'était les Jeux Olympiques, si j'étais un athlète. C'était, voilà, j'étais avec ceux que je pensais être les meilleurs du monde. Les gens bien plus intelligents que moi et qui étaient capables de me défier intellectuellement d'une manière très constructive.
C'était vrai, je veux dire, c'était impressionnant.
C'était impressionnant. J'ai jamais pu travailler dans un environnement aussi ouvert avec des gens aussi intelligents de ma vie. C'était incroyable. Les gens étaient tellement intelligents que j'en étais jaloux. Je me disais, c'est pas possible qu'ils puissent être aussi intelligents que ça. Comment ils savent plus que moi? Moi, quand je me mets dans une situation...
C'est stimulant, mais pardon.
Ouais. Exactement. Ce que j'allais dire, mais tu as dit ce que je veux. C'est tellement stimulant que alors, je bossais deux fois, trois fois plus. À tel point que j'ai mon deuxième enfant, honnêtement, je ne me rappelle pas de son enfance. Parce que j'étais tellement absorbé par Microsoft.
D'accord. Ah oui, donc tu as loupé un peu la...
Ah, j'ai loupé complètement.
Ouais. Ouais, ok.
Complètement.
Vous en parlez?
Oui. Ah ouais, c'est un sujet, je ne cherche pas à cacher. Donc, c'était comme ça. Donc,
tu le regrettes?
Non, je ne le regrette pas. Non, parce que si je commence à regretter dans ce conscient, il faut voir 54 ans de ce qui s'est passé et recommencer à dire ça, je regrette pas. Non, c'était comme ça, je me suis éclaté, je suis devenu plus intelligent et j'ai élargi mes connaissances grâce à cette dévotion. En fait, j'ai bossé 100 heures par semaine. Et en fait, je bossais tout le temps.
100 heures, c'est du lundi au dimanche. Hein.
Ah ouais, il n'y avait aucun arrêt.
Et donc, à l'époque, en plus, c'est 100 heures au bureau, du coup.
Parce qu'on bossait déjà les week-ends de la maison.
Ok, donc, sur des portables.
On était déjà connectés à Internet à l'époque, tout ça.
100 heures sur 7 jours, ça fait quand même beaucoup d'heures par jour. Sur 7 jours.
On n'arrête pas.
10 heures par jour sur 7 jours, ça fait que 70. Donc, en effet.
D'ailleurs, souvent, les gens dormaient chez Microsoft. On avait des petits déjeuners, on faisait tout. Ce qu'on appelait ça le marche de la mort. Death March. Parce que chaque fois qu'un release de Windows allait avoir lieu, les 6 derniers mois, en fait, Microsoft se transformait dans un hôtel, restaurant, où la plupart des équipes dormaient et vivaient dans le campus parce que il fallait sortir le logiciel à la date donnée et c'était un boulot énorme.
Et c'est des bons souvenirs?
Très très bons souvenirs. J'ai aucun souvenir amer de ce côté-là. Je me suis vraiment éclaté. C'était aussi dur qu'on puisse imaginer. Très challenging, mais alors j'ai grandi. J'ai appris mon métier d'ingénieur, mon métier de manager, mon métier de dirigeant pendant ces années.
À quel point il est nécessaire de passer par ces charges immenses de travail C'est un peu comme un entraînement pour un sportif. Tu dis, j'ai augmenté mon intelligence, pour être meilleur. Est-ce que tu peux trouver des shortcuts? Est-ce que moi, je peux tirer de cette période que tu as vécue un certain nombre d'enseignements qui vont me faire comprendre certaines choses?
Oui, je suis sûr. En fait, je suis persuadé qu'on peut avoir des shortcuts. Pour ça, il faut encore avoir le courage de reconnaître ce qu'on ne sait pas. Et être capable de vouloir apprendre. Mais dans la mesure où c'est une possibilité, je pense que c'est entouré des professeurs. Mais imaginons, je ne sais pas moi, Djokovic, le joueur de tennis. Il ne gagne pas les matchs tout seul. On pense que c'est lui qui gagne le match. Évidemment, c'est lui qui joue les points. Mais pour en arriver là, il a peut-être une équipe de 10 ou 20 personnes derrière. Et sur tous ces aspects, c'est ça. Ce que ce soit sur ses coups de coup droit ou de revers ou ses services, il y a 3 ou 4 coachs qui le regardent constamment et qui lui donnent le feedback. Donc il y a des gens qui peuvent accélérer grâce à un entourage qui leur permet en fait d'avoir ce constant constructive feedback. Donc ce loop de feedback dans lequel on se voit, on se compare, on définit le gap et sur ce, on travaille pour arriver au prochain, et prochain, et prochain. Et on répète. Donc ça, si on a une méthode comme ça, tu me demandes qu'est-ce que tu peux extraire, ça c'est possible. Je ne l'ai pas fait d'une manière méthodique parce que je l'ai fait d'une manière expérimentale, plutôt random, mais on peut, à mon avis, former des gens comme moi, j'ai eu cette formation d'une manière beaucoup plus rapide si on y mettait vraiment ce qu'on met, par exemple, pour les sportifs de haut niveau.
Tu connais Ray Dalio? J'en parle de ici. Non. C'est Bridgewater, Blackwater, Bridgewater, je crois, je me trompe, BlackRock, pardon.
BlackRock, c'est un des gros clients.
Un des founders de BlackRock et vraiment dans cette approche thoughtful disagreement, radical transparency. Donc l'idée, c'est vraiment d'être capable de se dire et dire en fait les feedbacks et le désaccord, c'est très bien tant que c'est constructif, très constructif quoi. Et j'adore cette approche. En effet, vous aviez un peu des dynamiques comme ça chez Microsoft à cette époque, ouais, tout le temps.
Tout le temps, mais c'est par contre c'était violent. C'est-à-dire que pas violence physique, mais violence on va dire intellectuelle, parce que ce qui faisait justement la force de cette époque, c'est que et là, il y avait un peu de culture américaine, c'est qu'il n'y avait pas de retenue. Donc, cette espèce de non-retenue, je ne suis pas d'accord avec toi, ce que tu dis, ce n'est pas bon. C'était sur votre, sur la table, sur votre visage, sans hésiter.
Ce qui pourrait être aujourd'hui être un peu considéré comme des formes de harcèlement ou de trucs un peu trop violents, c'est ça?
Oui, ça sera aujourd'hui, ça ne serait pas ce qu'on appelle PC, politically correct. Donc, il n'y avait pas de respect de ce côté-là. Donc, c'est-à-dire que si tu me dis, par exemple, j'aime bien prendre mon café comme ça, aujourd'hui, je dirais, est-ce que tu es sûr que tu aimes bien ton café comme ça? Parce que si tu le faisais comme ça et comme ça, peut-être que tu aurais un meilleur café. Donc, je reviens en 1995 et puis je dis, mais son café, il est vraiment nul. parce que tu n'as pas fait ça et ça. Donc, ça, c'est la différence. C'est la même chose en termes de outcome. Mais la perception du critique est très différente. Et donc, ce qui s'est passé à l'époque, c'est que si on était, si on s'offensait parce qu'on nous parlait d'une manière aussi violente et directe, on ne pouvait pas rester chez Microsoft. On ne pouvait pas survivre. D'ailleurs, il y en a plein qui n'ont pas vécu, ils sont partis. Et mais pour ceux qui étaient capables de prendre, on va dire, ces coups verbaux. Et être du Tefal. Donc là, par contre, c'était très très bien parce que là, on passait et on grandissait.
Est-ce que par la suite, cette expérience dans les entreprises que tu as créées ou dirigées, mais créées notamment, tu as toujours voulu la reproduire, tu as voulu que tout le monde bosse 100 heures par semaine, ou tu peux réussir à reproduire une forme de pattern sans aller être aussi hardcore, quoi.
Alors, plusieurs leçons de ma vie chez Microsoft. D'abord, les heures que tu mets d'une manière intelligente comptent beaucoup. C'est-à-dire que si une société bosse 40 heures, une autre qui bosse 80 heures, ils vont faire plus. C'est juste la physique. Donc, c'est comme ça.
Et un individu aussi, du coup.
Un individu aussi. Donc, c'est-à-dire que moi, toutes les boîtes que j'ai créées, que ce soit des boîtes intrapreneurs ou extrapreneurs, j'ai bossé plus que n'importe qui d'autre. Souvent, je disais à mes amis, employés, moi, je suis doué pour rien, sauf pour le travail. Il y en a qui sont doués. Ils ont y en a qui sont matheux, il y en a qui sont footeux, il y en a qui sont des coureurs. Mais moi, j'ai aucun. Mais par contre, ils ne peuvent pas travailler plus que moi. Et donc ça, j'ai définitivement gardé. Et si vous travaillez beaucoup, votre équipe, ils voient que vous travaillez beaucoup. Et donc, ils n'ont pas envie de faire moins que vous. Donc du coup, ça crée en fait une attitude de travail. Évidemment, c'est pas sustainable. C'est-à-dire que on peut pas faire ça pour 10 ans. Parce qu'ensuite, les gens, évidemment, s'épuisent. Commencer par moi-même. Deuxième principe, c'est autant que j'ai bien pris toute cette violence verbale chez Microsoft, mais je trouve que c'était vraiment pas nécessaire. Donc, jamais de la vie, j'ai répété ce genre d'attitude et toléré ce genre d'attitude dans les sociétés pour lesquelles j'ai travaillé et j'ai créé. Je trouve que ça manquait de respect.
Oui, oui. Et je pense, pour connaître pas mal de monde chez Microsoft et que ça a bien changé aussi, je veux dire, d'ailleurs, dans toute façon, tu peux plus, c'est plus politiquement correct. Dans toutes les GAFA, t'es obligé de. Mais j'ai l'impression que ça fait partie des entreprises dans lesquelles il y a beaucoup plus de respect maintenant, je dirais.
Tant mieux.
Ça, mais il est probable qu'il s'agit de, par moment, de mots nécessaires, peut-être. Ce que je veux dire, c'est que quand t'es dans une croissance fulgurante, t'es obligé de, en fait, à un moment, de dire à des gens, faut faire noir, faut faire blanc, voilà. Tu mets pas forcément plein de pincettes et plein de petites.
Ouais, ouais. Et ça, je l'évite souvent. Hein. Donc ça, tu as raison. C'est des mots nécessaires, mais il faut pas que ça devienne personnel et insultant.
Non. OK.
Donc, je veux dire, moi, je tolère 100% et j'encourage 100% le débat des idées, mais pas le débat de personnes.
OK.
Donc, c'est très difficile, c'est très différent de dire t'es nul que de dire ton idée est nulle. Donc, si ton idée est nulle, ben, montre-moi pourquoi c'est nul. D'accord? Donc, on va parler de ça. Et puis, à partir de là, on peut construire pour que ça soit mieux. Et par contre, si t'es nul, alors là, ça, c'est un jugement d'individu. Alors là, c'est tabou.
Et t'as ton idée est nulle et je pense qu'on pourrait faire mieux.
Voilà. Non, mais c'est pas que je pense. Voici pourquoi. Parce que,
ouais,
je veux dire.
Ouais, t'as raison. Là, c'est un débat. Tu as raison. Ouais. Tout à fait.
Parce que de faire un jugement gratuit en disant ton idée est nulle sans ajouter la contribution, c'est ça le feedback constructif. C'est pas acceptable. Donc, moi, la culture que je créais, c'est que personne pouvait critiquer une idée ou une personne, comme j'ai expliqué, sans être constructif. Parce que si c'est pour le détruire, c'est facile. Hein.